Bien, je pense qu'avec ces trois exposés, vous avez eu un large panorama à la fois des questions que l'on peut se poser à partir de l'œuvre d'Arendt et des problèmes actuels. Et j'imagine que vous avez un certain nombre de questions à poser à nos intervenants. Donc la parole est à la salle. Alors, il y a une première question là, monsieur... Le monsieur assis au milieu d'abord. Je crois qu'il y a, il y a d'abord un monsieur qui a le, voilà. Les questions fusent.
Bonsoir. Ma question est plutôt politique et actuelle et s'adresse à monsieur Wolfgang Auer. Monsieur Auer, vous avez mis sur le même plan le Venezuela, le Brésil et les États-Unis. Mais il me semble que le président Bush n'a rien à voir avec Hugo Chavez ou le président Lula. Chavez et Lula travaillent dans leurs pays respectifs contre la pauvreté et ils ont fait avancer les choses. Et pour citer un exemple, Hugo Chavez a même, vend même du pétrole moins cher aux pays pauvres, tandis que le président Bush a un comportement belliqueux à l'égard pratiquement de tous les gouvernements qui ne lui sont pas favorables. Il a mis une partie du monde à feu et à sang, et il continue encore de proférer des menaces d'intervention militaire à l'encontre des gouvernements qui lui paraissent hostiles. Et à la fin de son mandat, Bush va nous laisser un monde déchiré, inquiétant, où la confrontation violente a remplacé le dialogue, la compréhension, la reconnaissance, la fraternité avec l'autre, même s'il est différent. À l'université, lorsque j'étais étudiant en droit, on nous présentait les États-Unis d'Amérique comme étant la plus grande démocratie du monde, et que cette démocratie n'admettait pas l'immoralité politique et surtout les mensonges d'État. Qu'en est-il aujourd'hui avec le président Bush ? Je vous remercie.
Oui, oui, bien sûr, allez-y.
Bon, merci. La question n'est pas, sont pas les mesures, étudier les mesures des États comme vendre le pétrole moins cher ou faire la guerre internationalement, mais je me suis concentré sur la question, quelle importance a une, dans le sens d'Hannah Arendt, ouvrir l'espace pour l'action et avoir un espace appuyé aux sécurités, non? Parce que quand on parle avec Hannah Arendt, Arendt parle presque rien des institutions. Elle parle beaucoup sur la révalorisation de l'action, de faire des actions politiques, mais pas comme individus, mais ensemble. Elle a, pour ça, j'ai mentionné cet aspect d'intersubjectivité, une pluralité, et pas la discussion « moi j'ai le pouvoir, moi j'ai la volonté, etc. » Nous faisons la politique ensemble, et qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce qu'on peut faire la politique? On va dans la rue, etc., ou on discute dans les salles, mais cet espace doit être... doit avoir une durée, il doit être sécurité, sûr, etc. Pour ça, nous avons les institutions, nous avons la division des pouvoirs, nous avons la règle, le règne des lois et tout ça. C'est une mixture de Montesquieu et Hannah Arendt. Et qu'est-ce que ça veut dire, penser sur comment nous ne voulons pas, dans le sens de Hannah Arendt, une division de la société, là et l'État? Et ici, c'est la société civile. Dans le sens de Hannah Arendt, nous voulons tous. Nous voulons une horizontalité de la politique, ensemble les citoyens et ensemble les représentants, où ça dépend de la système, du système. Et comme cet espace public, cet espace politique est organisé, et c'était la question, et quand il y a un excès du pouvoir exécutif, par exemple, quand il y a le taisement des lois, quand il y a là une politique volontaire sans freine, sans opposition, sans contrôle, etc. Nous avons plus et plus un État qui paraît être très fort, mais en vérité, il est assez maigre parce qu'il est dépendant des conseillers, d'un président, du militaire, mais pas avec le consent, pas avec la discussion publique, pas avec le contrôle des lois et d'autres pouvoirs de la Constitution. Pour ça, la discussion est surprenante. Qu'on peut parler sur les faiblesses de la République nord-américaine et aussi sur les faiblesses en Venezuela, indépendamment quand on pense que vendre le pétrole pour les pauvres aux États-Unis ou faire un accord avec l'Argentine et autres pays, avec les pays dans les Andes, etc., c'est indépendant de ça parce que La chose difficile dans le pays de Venezuela est la division dans le peuple, la continuation de la corruption et tout ça. Non? Et on peut bien payer le pays avec toutes les ressources qui viennent par la vente de pétrole. Non? Et avec sur la situation mondiale et les États-Unis, nous sommes d'accord, il n'y a pas de problème. Non?
Alors, comme nous sommes en fin de journée, je vous propose qu'on évite peut-être les exposés de politique internationale générale particuliers et que donc on se concentre vraiment sur les questions liées à Hannah Arendt. Oui, monsieur.
Oui. Allô, vous m'entendez?
Oui.
Oui, bon, écoutez, là, vous avez parlé de violence. Actuellement, moi, la plus grande violence, c'est qu'il y a un être humain toutes les 4 secondes qui meurt de faim. Vous voyez, alors, on a dépeint tous ces régimes politiques. Pour moi, c'est des régimes du passé, c'est des fous, des régimes de cinglés. Parce que vous avez la Révolution française, vous ne l'avez pas parlé, ils ont parlé des droits de l'homme, mais ils sont allés exterminer les Vendéens. Ça a été des gens qu'on a crucifiés sur des portes des granges. C'était pas les droits de l'homme. Si après, on a eu peut-être une vengeance divine, Napoléon est arrivé, il y a eu 2 millions de morts.
Quelle est la question liée à Hannah Arendt,
s'il vous plaît. Arendt, elle parle d'une époque de régime de 5 de fous. Vous voyez, Hitler, Staline, tout ça, c'est fini. Alors, il faudrait peut-être aujourd'hui, nous sommes en 2006, il faudrait peut-être trouver du nouveau et ne pas ergoter sur des systèmes de fous. Vous voyez, nous sommes dans une vraie folie et trouver quelque chose. Pourquoi ne pas faire l'inventaire des terres, par exemple? Vous voyez, vous avez des millions d'hectares de terres en Afrique, vous avez l'Afrique.
Est-ce que vous avez plus précisément millions, une question,
non,
monsieur,
vous parlez des émigrés. Vous voyez, vous avez des millions d'hectares de terres. Bon. La France, elle est 55 fois plus petite que le continent africain. Ils sont 900 millions. Voyez, alors
je
on
crois,
ne peut pas
crois,
accueillir. Vous avez ici,
votre...
là dans les halles, vous avez des tas de jeunes
on a compris votre
qui
point
se livrent
de vue,
à la
monsieur,
drogue.
Merci beaucoup.
Il ferait mieux de mettre leur pays. Ce sont des déserteurs économiques qui feraient mieux de mettre leur pays en valeur
et
nourrir leur population et ne plus avoir ces pauvres gens qui meurent de faim.
D'accord, mais merci beaucoup.
Mais c'est des systèmes de fous. Parce que, alors, bon, faut trouver.
Je
mais
pense
le problème,
qu'on...
c'est non. Alors, oui,
voilà.
Mais aujourd'hui, il faut trouver un système valable.
Alors, je crois que monsieur. Au milieu, là, vous
oui,
aviez une question.
J'ai une question un peu délicate à M. Hoyer. Peut-être je pourrais les poser, comme je suis allemand aussi, je pourrais les faire en allemand et après je traduis ou est-ce que ça peut aller en français?
Non, je crois que c'est mieux que vous le fassiez en français.
Okay,
et puis
okay.
On...
Non, comme vous savez, il y a une autobiographie de Laure Adler sur Hannah Arendt et... dans cette biographie, j'ai appris, je ne le savais pas, qu'elle était donc l'élève de Karl Jaspers avant et après Heidegger, et pratiquement Sein und Zeit, le livre 1927, a été en quelque sorte coécrite, c'est peut-être trop dire, mais entre l'élève Hannah Arendt et Heidegger. Et... Est-ce que aujourd'hui en Allemagne, est-ce que on considère encore que cette dérive de Heidegger vers le fascisme allemand, qui est devenue une espèce de figure de proue du fascisme, est-ce qu'il y a dans les textes de Sein und Zeit, est-ce qu'il y a le fascisme inhérent, est-ce qu'il était dedans, est-ce qu'on discute de ça en Allemagne? Parce que ça aussi, c'est de la violence.
Il faut lever la main.
Je
crois que la question vous était adressée, Wolfgang Höyer. Mais ce qui n'empêche pas de...
J'ai seulement lu dans le magasin littéraire il y a un an ces thèses de Laure Adler et je n'ai pas lu le livre. J'étais étonné qu'il y a la pensée de Hannah Arendt dans Sein und Zeit. Je crois qu'elle avait, et ça c'est beaucoup plus intéressant de faire la comparaison entre la philosophie de Heidegger et la philosophie de Hannah Arendt. Et il y a beaucoup des similarités, la philosophie de l'existence, la phénoménologie, etc. Mais il y a la différence la plus grande est penser sur l'avancement vers la mort ou la naissance, en Hannah Arendt, le commencement du nouveau. C'est très important pour toute la théorie politique de Hannah Arendt. Non et la discussion, c'est une discussion sur Heidegger. Il y a toujours des zones de discussion si Heidegger est aussi dans son pensée, dans sa pensée en nazi, mais ça sera une autre discussion, je crois.
Une question supplémentaire, juste une avant. Est-ce que vous ne pourrez pas pu avoir l'influence à Heidegger de convaincre
que Heidegger s'exile en Suisse ou en Londres ou à Paris ou pour faire une conférence de presse en disant voilà le régime allemand et il est totalement à la rive, il va détruire non seulement l'Allemagne mais aussi l'Europe et le monde entier. Est-ce que vous croyez pas qu'il y a là une zone d'ombre dans l'histoire non seulement de Heidegger et de Hannah Arendt mais aussi dans l'histoire de l'Allemagne?
Je crois qu'on connaît assez bien tous les papiers qui existent dans les archives. Il n'y a pas des traces qui montrent l'essai d'influencer de Heidegger. Ils se sont assez séparés. Hannah Arendt a vécu à Berlin et Heidegger en Fribourg dans l'année 1933. Ils n'ont pas eu en contact. On connaît pas il y a des lettres, ils sont publiés, on peut lire les lettres, mais il n'y a pas la discussion. Qu'est-ce qu'on fait avec cette situation dans le pays?
Oui, une autre question là au fond.
Oui, en fait, ma question s'adresse à Françoise Collin à propos de la violence et d'Hannah Arendt. Vous avez parlé de la violence du calme. Alors, à quoi ça renvoie exactement la violence du calme concrètement?
Eh bien, la violence institutionnelle, par exemple. Je veux dire que la violence n'est pas liée uniquement au mouvement, à l'agitation. Il y a des lois auxquelles tout le monde est soumis et qui sont extrêmement violentes dans le sens qu'elles pèsent et elles détruisent sur ceux qu'elles concernent. La violence n'est pas seulement dans les coups, dans la révolution, dans la révolte des gens qui vont casser des maisons, etc. Elle peut être, elle est d'abord et aussi, et donc c'est cette dialectique que j'essayais d'évoquer, elle est chez Arendt, elle est aussi dans la violence de la loi elle-même, quand la loi est discriminante. Vous voyez, ou de la situation donnée. D'ailleurs, c'est ça que je me suis permis d'appeler, je ne sais plus quel poète parle ainsi, la violence du calme. C'est-à-dire que la violence n'est pas liée uniquement à son expression désordonnée, quoi. Voilà. Donc il y a des régimes extrêmement calmes et qui sont extrêmement violents. C'est ainsi que je voulais indiquer, et c'est tout à fait chez Arendt, qu'il y a deux modalités de la violence. C'est tout. Une modalité qui est celle de la révolte et dont elle dit elle-même qu'elle ne mène pas à grand-chose sauf à court terme, mais que cependant elle est compréhensible. Hein, je veux dire, elle la comprend et elle lui trouve même un certain sens politique pourvu qu'elle soit à court terme. Ce qu'elle dit, par exemple, j'ai oublié de le dire, il me semble que j'ai oublié de le dire, elle dit la violence ne fondera jamais un régime politique. C'est-à-dire que la violence ne peut pas être le fondement d'un régime politique, mais elle peut être la violence physique, une forme de parole quand il n'y en a plus d'autres, comme elle le dit, comme elle le donne comme exemple dans le roman d'Herman Melville. Mais elle ne peut pas, mais elle ne sera, elle dit donc avec un effet à court terme, elle dit elle ne peut jamais devenir un principe politique. Et je trouve que cette distinction est extrêmement intéressante entre les violences de révolte ou même d'exaspération irraisonnée, hein, qui sont simplement l'expression d'une douleur, et d'autre part, le système violent qui se, comment dire, où la violence est prise comme mode même d'exister, enfin de gérer le rapport politique, le rapport aux autres, etc. Donc il y a deux types de violences que dit Arendt. Et l'une a, non pas, ne doit pas être instaurée comme un modèle, mais elle fait partie du jeu, car elle s'oppose à une autre violence immobile. Mais vous savez, c'est pareil, ça se passe non seulement dans les rapports politiques, mais même dans les rapports éducatifs, si je puis dire. Enfin, certaines rages d'enfants, certains cris qui répondent en fait à une domination dans laquelle ils étouffent. Et alors, il y a un cri, voilà, c'est ça, il y a un cri, il y a même un trépignement, on casse les assiettes, etc. Enfin, je veux dire, c'est très simple ce qu'elle veut dire là. Et ça peut se passer aussi dans les sociétés ou dans les espaces politiques. Mais elle dit effectivement, et je crois que pour notre époque, c'est tout à fait intéressant comme réflexion, je me le disais en reprenant ces mots-là, elle dit, mais elle ne peut pas devenir le principe, elle ne sera jamais valable comme principe d'une action politique. Je pensais évidemment à certains fantômes contemporains. Et donc, on présente toujours Hannah Arendt comme la penseur, et à juste titre, du dialogue pluriel, ce que j'ai souligné, et donc de la paix par le dialogue, par l'interlocution. Mais il y a des moments où ça dérape, en quelque sorte, ou du moins où la parole ne passe plus, où il n'y a pas de parole. Et à ce moment-là, comme elle le dit pour ce marin qui ne peut pas s'exprimer, il tape. Je n'ai pas donné la suite de l'histoire. Le marin en question est au fond compris par le capitaine. Son geste de violence est compris comme un geste d'impuissance désespérée et d'une injustice dont il est l'objet. Il n'est pas pour autant légalisé, car le marin va être condamné à mort. Et le capitaine, qui le comprend et qui justifie d'une certaine manière son geste, va ratifier la validité de sa peine. Donc voilà deux types de justice, vous voyez, qui cohabitent, et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et il me semble que c'est intéressant et éclairant pour le monde contemporain. Mais je voulais dire aussi que j'ai été très intéressée par ce que vous avez dit sur les rapports entre nationalité et citoyenneté. Je crois que c'est absolument fondamental chez Arendt, et la référence à Otto Bauer, évidemment. Et il me semble qu'elle n'est pas toujours très claire sur cette affaire. Parce que, en fait, elle est évidemment très critique de l'État-nation à la française. Hein, mais en même temps, lors du démembrement de l'Empire austro-hongrois, elle critique aussi tous ces petits bouts de nationalité qui sont remis ensemble et qui donc doivent faire une sorte de patchwork qui est aussi une catastrophe. Donc elle est à la fois contre l'unité entre l'État et la nation, mais aussi contre l'agrégat des nations minorisées.
Elle est contre les trois formes de possibles de la nation, c'est-à-dire contre l'État-nation à la française, contre le nationalisme hégémonique de type pan-germaniste, oui, et contre le principe des nationalités.
Elle fait quand même l'éloge de la Suisse, hein, l'éloge dithyrambique de la Suisse.
Oui, mais justement parce que pour elle, c'est pas un État-nation.
Non, mais c'est un État qui réussit, dit-elle. Oui, hein. Oui. Je me souviens de ça. D'ailleurs, j'avais dû faire une conférence en Suisse là-dessus, donc j'étais bien placée.
Mais de même qu'elle croit, de même qu'elle
pense. Elle dit que c'est très bien parce qu'il y a plusieurs nationalités qui s'entendent.
Oui, justement, c'est de même que pour elle, contre toute évidence, les États-Unis ne sont pas un État-nation. Ce qui est une idée, à mon avis, pas très raisonnable.
Donc elle fait plutôt l'éloge des multiplicités dans l'unité.
Oui,
mais par moments, elle les critique aussi dans les reconstitutions de pays à partir, par exemple, de la Tchécoslovaquie, etc. Elle critique ça. Oui. Les pays qui sont recollés à partir de la destruction. Mais enfin, ça met en évidence un très beau problème, je trouve. Oui.
Alors, je crois qu'il y avait une question là. D'abord le monsieur et... On va y arriver, ne vous en faites pas. On a du temps. Donc, alors... Donc, monsieur à gauche, oui.
Oui, je voudrais simplement poser une question à François Scolin. C'est un point de son discours que je n'ai absolument pas compris. C'est lorsque vous parlez de l'assentiment et quand vous dites que le pivot de la domination, c'est d'empêcher l'autre de penser par soi-même. Ça, je ne comprends absolument pas ça. Qu'est-ce que vous voulez dire par là exactement?
Je ne me souviens pas avoir parlé de la question du penser par soi-même, mais enfin, pourquoi pas? Non, il ne me semble pas que c'est moi qui ai abordé cette question du penser par soi-même.
Non, je pense que
c'est possible. Alors, qu'est-ce que vous dites donc que empêcher l'autre de penser par soi-même? Je ne me souviens pas l'avoir dit, mais enfin, réfléchissons, on va trouver quelque chose.
Je crois que la question était pour la table ronde précédente.
Oui, je crois aussi. Mais je peux vous dire quelque chose.
Allez-y, allez-y.
Je crois que sans empêcher l'autre de penser par soi-même, je dirais, mais c'est une question, tout ce que j'ai dit là me pose à moi-même d'énormes problèmes. Hein. J'ai simplement voulu faire voir des choses qui d'ailleurs nous concernent aujourd'hui. Je crois qu'effectivement, il y a toujours, même dans la démocratie, et dans la culture dominante, une sorte de, précisément, de, je dirais pas d'idéologie, mais enfin de consensus dans la pensée, qui fait qu'un questionnement externe apparaît comme incongru, si vous voulez. Et que peut-être le travail qui est à faire dans l'évolution de tous les pays et de tout ce qui prétend au monde commun, c'est d'être capable d'entendre la question, c'est-à-dire le penser par soi-même de l'autre, d'entendre la question sans que ce soit une forme de destruction, mais comme simplement une réouverture du dialogue. Moi, je pense d'ailleurs qu'aujourd'hui, nous y sommes amenés. Nous sommes obligés de penser et de parler autrement, de déplacer notre régime culturel traditionnel qui nous paraissait une évidence absolue. Nous sommes nécessairement interpellés par nos voisins, par nos interlocuteurs, par ceux qui viennent d'ailleurs mais qui sont bien français et qui ont une autre culture, une autre manière d'être, une autre manière de parler, qui ne peut pas être renvoyée comme ça simplement à la nullité. Bon, alors si vous voulez que j'aille plus loin même là dans ma position par rapport à ça, Arendt m'aide à penser qu'est-ce que c'est aujourd'hui que le monde commun dans la pluralité, qui n'est pas seulement la pluralité des mêmes, mais la pluralité des différents. Je crois qu'on ne peut pas faire l'économie de cette question, et que c'est ça que j'essayais de dire, mais je pense que votre question ne s'adressait pas directement à moi, mais voilà une petite forme de réponse.
Alors, monsieur à droite, oui.
Oui, merci. J'aimerais bien souligner un aspect qui, à mon avis, n'a pas été touché ni ce matin, ni cet après-midi, à savoir que il me semble que Hannah Arendt désigne aussi une forme d'action qui n'est peut-être pas une action politique au sens étroit du terme, comme nous pensons la politique normalement, n'est-ce pas? Elle donne l'exemple du grand spécialiste de cette forme d'action politique qui est Jésus de Nazareth. Mais en réalité, elle revient sur cette forme d'action qui est une action ponctuelle, moi je dirais une forme d'action interstitiel, si on peut dire. Et très probablement, cette forme d'action s'impose quand il y a des crises. Elle dit clairement, en arrêt, si je ne me trompe pas, que des fois, dans certaines situations, un seul mot, une seule forme de manifestation peut changer le cours des choses. Mmh. Ça veut dire, si elle dit cela, elle l'a prouvé. Et chacun de nous, nous avons peut-être des exemples qui prouvent que cette affirmation de Hannah Arendt est peut-être valable, n'est-ce pas? Mais cela nous pose un problème, parce que s'il y a une action qui est plus large encore que les institutions, c'est là le problème. Alors, les institutions, la relation entre les institutions et l'action, que nous appelons politique, doit être quoi à ce moment-là, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a un délitement, un pourrissement des institutions qui impose de plus en plus des actions interstitielles, des actions ponctuelles qui, justement, sont une échappatoire devant des situations qui sont autrement ingérables. Et tout cela, c'est la troisième question. Mais cela revient à poser la troisième question. Est-ce que les principes qui ont géré jusqu'à maintenant, n'est-ce pas, nos politiques, au sens de nos régimes politiques, les principes de Montesquieu, finalement, sont épuisés aussi? Il faut trouver autre chose. Après avoir sémé l'État-nation partout, l'Europe doit dépasser l'État-nation. Et au lieu de n'est-ce pas, au lieu de reculer sur les problèmes européens, nous devrions avancer. C'est là la seule façon de sortir des...
Alors, je crois que la question est très large et chacun va pouvoir répondre. Peut-être Wolfgang Heuer pour commencer.
Je suis d'accord d'ouvrir l'aspect d'action, et pas une action pré-organisée, pas l'action des représentants, mais l'action spontanée. Non, spontanée. Qu'est-ce que ça veut dire? La semaine passée, nous avons discuté sur les minorités en Europe et ça m'est venu quand on discute sur les empires qui se sont dissolus après la Première Guerre mondiale. Il y avait beaucoup des apatrides, des réfugiés. Non? Et Hannah Arendt a proposé, ça sera bon de finir avec les États nationaux et aussi avec le concept des minorités et avec les droits des minorités dans les grands pays des États nationaux. Il serait bon, elle a écrit avant la Deuxième Guerre mondiale ou au commencement, d'avoir une Europe unie des minorités, tous là-dedans et sont tous des minorités. Alors il n'y a pas des minorités parce que sont tous des participants d'une fédération européenne. Alors maintenant, avec un parlement, etc. Alors maintenant, nous avons une fédération européenne et nous avons un agrandissement des apatrides, des réfugiés qui viennent maintenant, comme en ce temps-là, en Europe. Alors, c'est presque le même problème. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On ne peut pas faire des murs et des contrôles entre Afrique et Espagne. Il faut élargir, je pense, l'idée ou la vision de Hannah Arendt d'ouvrir cette idée de fédération, mais on ne sait pas comment faire ça. Mais pas dans cette pensée, nous sommes maintenant l'État national européen contre les autres. Ce n'est pas possible. Non? Et le deuxième aspect, comment trouver des solutions pour des problèmes comme ça? On ne peut pas toujours, parce que nous connaissons cela déjà en France, en Allemagne, dans tous les pays, dans la Commission européenne, s'asseoir dans les tables et penser sur la politique, sur ce que... Qu'est-ce qu'il y a comme solution? Et beaucoup de temps, nous avons des réformes fondamentales en Allemagne parce qu'il n'y a pas d'argent pour payer et financer, peut-être aussi comme aussi en France, l'état social pour le futur. Mais comment rencontrer des solutions avec tous les groupes des intérêts? Peut-être ici vient la spontanéité de la politique là-dedans. Quand il y a activité, il y a des solutions inattendues, inespérées, etc.
Philippe Reynaud peut-être va répondre. Un mot. Non, mais je crois qu'il y a d'autres gens qui veulent aussi poser des questions, c'est pour ça.
Non, mais monsieur, vous voulez poser des questions?
Oui, mais je crois que... Oui, laissez peut-être Philippe Reynaud vous répondre. Laissez-le répondre et après vous voyez si vous voulez...
Je passe mon tour.
Non, mais allez-y,
Non, parce qu'il y a d'autres questions. Il y a d'autres questions qui doivent venir dans la salle.
Bon, alors, je crois que monsieur là-bas avait une question depuis longtemps.
Moi, je viens d'un pays qui... Je viens d'Allemagne. Je trouve c'est ce qu'on a discuté pendant la journée très actuelle, le soin de ce monde, c'était un mot clé, et aussi qu'elle se sent chez soi dans ce monde, c'était en Amérique disons, et que la nation a perdu la priorité. Et moi je viens d'un pays, c'est-à-dire l'Allemagne de l'Ouest, qui a, après la guerre a pris de prendre distance vis-à-vis la dominance des nations, parce que il y a un autre philosophe actuel contemporain en Allemagne qui s'appelle Habermas. Il parle de patriotisme de constitution, et pour moi la question qui résulte où je voulais poser, à travers quelle institution et quel modèle, vous avez déjà nommé la Suisse, mais l'Amérique joue aussi un certain rôle, et peut-être l'Allemagne occidentale après la guerre. À travers quelle institution Hannah Arendt a pu imaginer cette discussion qu'elle demande pour réactiver la politique pour tout le monde et surtout éviter l'exclusion des apatrides? Elle a mentionné le système de conseil, mais qui apparaît aujourd'hui un peu dépassé par l'histoire. Est-ce qu'on n'est pas obligé, d'abord, d'intéresser les gens pour vraiment le monde, c'est-à-dire de se sentir plus uniquement dans l'intérêt de la France ou l'intérêt de la Russie, mais donc, en concluant qu'il y a une discussion à amener. Et est-ce que ça doit être dans l'ONU ou est-ce que ça doit être à travers une certaine institution constitutionnelle qui garantit le droit de l'homme? Est-ce qu'on peut trouver des idées qui sont un peu plus claires là-dessus?
Alors, qui est-ce qui veut se risquer à répondre? Philippe, peut-être, ou Françoise?
Je n'ai pas réponse à tout, mais je crois que surtout Arendt ne prétend pas avoir réponse à tout. Je crois que ce qui est intéressant dans la pensée de Arendt, elle ne se substitue pas à nous pour trouver des issues dans notre vie politique actuelle. Elle nous fait penser et elle nous accompagne dans l'action que nous avons à mener, mais ce n'est pas la personne qui nous donne des espèces de solutions miracles qui nous permettraient d'affronter le monde contemporain, d'autant plus qu'elle a écrit un peu avant dans d'autres conjonctures. Simplement, l'accompagnement de sa pensée, je crois, et les problèmes qu'elle pose dans le rapport nationalité, citoyenneté, etc., que vous avez évoqué, qui se présentent dans son œuvre sous des formes assez diverses, nous obligent à penser, mais notre travail politique, pour être fidèle à Arendt elle-même, c'est à nous de penser par nous-mêmes et d'agir dans l'insécurité, dans la non-représentation d'une solution idéale. Je crois que c'est ça qui est intéressant dans la notion d'action chez Arendt, c'est que nous n'avons pas devant nous un modèle, hein, une réponse, en tout cas pas même chez Arendt, nous n'avons pas un modèle qu'il suffirait ensuite d'appliquer ou qu'il suffirait de prendre en charge. Elle nous invite à penser et à repenser le monde commun par des approches d'ailleurs assez diversifiées, même au sein de son œuvre. Donc ce n'est pas une réponse à tout, c'est simplement un défrichement des problèmes qui, je crois, sont encore intéressants pour nous, mais nous n'avons pas. Alors, il me semble aussi, je voulais dire une petite chose aussi, il me semble que ce n'est pas tellement un penseur de l'institution. Il me semble que, enfin, pour moi, en tout cas, ce qu'elle réveille surtout, c'est l'indignité de qui n'accepte pas d'être présent dans la police, si vous voulez, par la parole et par l'action, même si elle ne nous fournit pas de réponse définitive. Il me semble que c'est plutôt ça. Il me semble que l'intérêt de son œuvre, en tout cas, c'est de nous inciter à devenir des êtres politiques plutôt qu'à nous fournir la définition du régime idéal que nous pourrions réimplanter dans notre vie contemporaine. Enfin, moi, c'est ainsi que je l'entends. C'est pourquoi je venais à la fin, mais je n'ai pas eu le temps d'en parler, sur la notion de praxis. Moi, c'est le principal apport d'Arendt, c'est cette notion de praxis.
Alors, Philippe Reynaud, là, vous avez utilisé votre joker déjà, donc il vous faut répondre maintenant.
Bon, moi, je suis d'accord avec certaines des choses que vient de dire Françoise Collin. C'est-à-dire, je crois que Anna Arendt n'est pas un penseur programmatique dont les propos seraient susceptibles d'application. Je crois qu'elle n'a jamais voulu faire ça, d'ailleurs. Elle se définissait d'ailleurs non pas comme un philosophe, mais comme un écrivain politique. Je crois que c'est quand même très, très important. C'est-à-dire que ce que je crois nous devons faire, si nous pensons évidemment que cette pensée est intéressante et féconde, c'est essayer de repenser nous-mêmes à partir de ce qu'elle peut nous dire. Alors pour la question très vaste que vous posez, c'est-à-dire finalement de l'organisation de l'espace politique, notamment de l'espace politique européen, je crois que ce qu'elle a voulu dire toute sa vie, c'est, elle le dit d'ailleurs dans un de ses premiers textes sur l'Amérique, c'est que l'Europe ne doit pas devenir un État-nation européen. Bon, c'est déjà quelque chose de considérable, même si c'est apparemment modeste. D'autre part, je pense qu'elle n'aurait pas été très satisfaite par ce qui a été finalement la tentative française que résumait la formule de Jacques Delors, une fédération d'États-nations, dans la mesure où elle aurait souhaité sans doute autre chose qui correspond à une certaine idée qu'elle se fait de ce qu'auraient pu et de ce qu'ont été dans une certaine mesure les États-Unis. c'est-à-dire une construction politique dans laquelle la liberté et le pouvoir sont articulés de manière satisfaisante, et dans laquelle la citoyenneté, c'est quand même très important chez Hannah Arendt, évidemment, n'oblige pas à l'assimilation. Il faut quand même toujours en revenir à ces questions assez basiques sur elle. Alors, est-ce que c'est encore les problèmes qui se posent pour nous? Je ne sais pas. C'est une certaine manière, c'est à chacun de juger. Donc, je rejoue mon joker pour finir.
Il y a une question là au milieu, oui. Il faut approcher le micro, je pense. À moins qu'il soit éteint.
Alors, ma question s'adresse à Madame Colin.
J'entends mal.
Je voudrais savoir si la violence du calme concerne aussi l'application.
On l'entend pas très bien. Oui, la violence du calme.
Je vous dis, oui.
Il y a un truc qui...
Merci. Ah, on m'entend mieux. Donc, Madame Colin, j'aimerais savoir si la violence du calme peut aussi concerner l'application injuste d'une loi qui, à la base, est juste. Et si oui, est-ce qu'on peut considérer les émeutes de l'automne dernier en France comme une réponse, à la violence du calme, donc par une violence physique? Merci.
Écoutez, comme chacun de nous, je m'interroge beaucoup sur la situation actuelle et ses problèmes. C'est vrai, quand je parlais de ça, c'est vrai que je me suis dit, en relisant pour cette préparation, je cherchais une ligne qui ne serait pas celle du totalitarisme, puisque je pensais qu'elle serait traitée longuement. Il est vrai que tout à coup, en lisant ce qu'elle disait, je trouvais ça tout de même éclairant, même pour nous, sans vouloir faire des applications, c'est que prendre la violence comme principe à long terme, on pense effectivement à toute cette contre-politique qui nous menace, elle considère que c'est totalement irrecevable. Mais par contre, je pensais effectivement à la situation actuelle quand elle disait celui qui tape du poing parce qu'il n'a pas de parole. Vous voyez, c'est vrai que j'y ai pensé. Je ne veux pas y faire ici des glissements prématurés. Mais pour moi, oui. Pour moi, oui, il y a là quelque chose à quoi je réfléchis. Quand je lis ça, je réfléchis, mais je ne fais pas des applications automatiques, etc. Mais c'est vrai que ça me fait penser. Et surtout, cette distinction entre les deux violences, la violence spontanée du cri et la violence systématique qui prétend devenir une politique internationale. Mais ce sont comme deux objets, deux modalités de la violence qui sont pour elle irréductibles, et je trouve que c'est intéressant à penser.
Alors, je ne sais pas si les autres intervenants veulent... Non ? Alors, oui, Carole Wienmeyer.
Oui, j'aurais juste une petite remarque à faire à ce propos. C'est vrai qu'entre la violence calme de la loi et la violence ponctuelle, il y a aussi la désobéissance civile. Et c'est vrai que ça, ce sont des actions qui sont non violentes, qui permettent de répondre à l'injustice et à la violence de la loi. Donc je pense qu'avant d'essayer, en tout cas, la violence, même si elle est ponctuelle, avant d'essayer cette violence, il y a ces modes-là, qui sont de vrais modes d'action politique, selon Arendt.
Bien sûr, voilà. Mais pour recourir à la désobéissance civile, il faut déjà avoir une conscience politique.
Une certaine écoute.
Vous voyez que je pense que ceux qu'elle désigne, le type dans Melville, n'a pas. Je veux dire, il est à ce stade où il réagit violemment. Vous pouvez me dire, il aurait pu, même sans parole, trouver, etc. Je pense que la désobéissance civile est déjà l'acte de quelqu'un qui est déjà politisé, en quelque sorte, vous voyez. Mais ce n'est pas du tout pour valoriser l'un, dévaloriser l'autre. Il est évident que la désobéissance civile est plus intéressante, plus importante, puisqu'elle n'est pas de violence physique.
J'ai bien compris, mais c'est vrai que, par exemple, les actes de violence qu'elle met en valeur, comme la résistance aussi, qui sont un acte de violence absolument légitime, sont aussi, le plus souvent, dans les exemples qu'elle prend, alors effectivement, pas l'œuvre en question... dont vous parliez, mais c'est plutôt des actes aussi qui sont le fait de gens qui ont une conscience politique, effectivement. Je ne sais pas comment elle aurait pensé ça, de toute façon, comme vous dites, il ne faut pas chercher à l'appliquer de manière systématique. Mais...
Oui, qui ont une conscience politique, mais peut-être pas une conscience articulée, déjà. Vous voyez, les émeutes, par exemple, oui, la mai 68, c'est très différent, d'ailleurs, elle fantasme un peu, mais les émeutes des Noirs, ils ne savent pas vers quoi ils vont. Ça devient bien insupportable. Je veux dire, il y a d'abord un geste. Ce n'est pas du tout pour valoriser ces choses, mais simplement pour. Nous ne sommes pas là pour valoriser ceci ou ça, mais pour simplement le resituer dans le cadre général de la manifestation politique et s'interroger sur le sens ou la place que ça peut avoir, même quand ce n'est pas, comme vous le dites, très conscientisé, quoi. Même quand c'est une espèce d'explosion.
Oui, Philippe Reynaud.
Oui, moi je voulais faire une. Puisqu'on se demande un peu ce qu'Anna Arendt aurait pu penser des mouvements de l'automne dernier. Je crains que ça ne lui ait pas beaucoup plu, d'après ce qu'on peut en savoir. D'abord, quand on voit ces modèles positifs, c'est l'action des Noirs américains, par exemple, justement, parce qu'elle est dans la dignité, dans le calme, etc. Et c'est des mouvements, comme vous l'avez dit, de résistance civile. Dans mai 68, ce qui lui plaît, c'est l'aspect des libérations collectives, un petit peu. Elle n'a jamais eu le goût, me semble-t-il, de l'émeute, qui est une chose même qui lui déplaît profondément. N'oubliez pas que dans les origines du totalitarisme, par exemple, elle a des mots très durs sur le rôle de la canaille dans la montée du totalitarisme. C'est quelqu'un qui n'aime pas ça. Et si vous prenez dans sa correspondance, au moment où elle est à Paris, à peu près au même moment où il y a l'histoire d'Eichmann à Jérusalem, il y a une correspondance, je ne sais plus si c'est avec Gershom Scholem ou un autre, où elle parle d'un séjour à Paris et où elle décrit le peuple parisien dans les mouvements, dans divers mouvements sociaux. Et je ne suis pas sûr que ça lui plaise beaucoup, tout ça. C'est pas tellement son style, je pense.
Oui, mais c'est vrai, mais je crois qu'il faut tout de même distinguer entre Arendt, dans sa sensibilité, où elle est tout de même assez conservatrice, si je puis dire. Elle n'aime pas être trop dérangée. Oui. Et il faut distinguer aussi, tout ce que je vous ai cité, ce sont des phrases d'elle, et qui sont quand même très fortes, et qui vont dans le sens de ce que j'ai dit. Je veux dire, je n'ai pas inventé...
Mais je ne dis pas que vous l'avez
inventé. Bien entendu, dans son sentiment personnel, ce n'est pas ce qu'elle rejoindrait volontiers. Même sur les Noirs, à la fois elle soutient ce mouvement, en même temps, elle, manifestement, elle a aussi des propos très racistes, si je puis dire. Mais bon.
Non, raciste, alors là, non. Je m'inscris en faux.
C'est critique de la discrimination positive.
Mais ça, c'est pas raciste. Elle a une conception précise sur ce qui est possible et nécessaire de faire aux États-Unis. Mais. Si vous voulez, sur la question noire, pour elle, la revendication prioritaire, c'était la fin des lois anti-miscegenation, c'est-à-dire des lois contre les mariages mixtes, qui sont précisément les lois raciales. C'est-à-dire qu'elle est en tout cas antiracialiste, si vous voulez ça, de manière la plus claire. C'est ce qu'elle trouvait vraiment intolérable dans le système américain. Ce qu'elle dit, c'est évidemment dur à écouter aujourd'hui, c'est qu'elle trouve que le fait de la ségrégation est quelque chose de socialement choquant, mais n'est pas un scandale politique. Ce qui est un scandale politique, c'est les lois orientées vers l'organisation de la discrimination et de la séparation des races et de l'interdiction des... C'est très précis ce qu'elle dit, mais je crois qu'on ne peut pas dire que c'est raciste.
À un certain moment, elle dit d'ailleurs qu'elle trouve tout à fait normal qu'il y ait des lieux où les gens d'une certaine nation et leurs hôtels à eux puissent se retrouver sans avoir les autres dans leur champ. Par exemple, elle dit qu'il est normal qu'il y ait des hôtels pour les Juifs, des hôtels pour les Noirs, etc.
Je trouve que c'est très fâcheux, si vous voulez, mais c'est...
Oui.
C'est
non, ça, mais je trouve la pensée d'Arendt, elle est assez... Elle est quelquefois contre... Enfin, oui, et c'est ça que j'aime chez elle. Il y a plusieurs courants, mouvements.
Alors, il y a encore deux questions. Donc, Anne-Marie Roviello et Corinne Enaudeau, après.
Oui, alors, c'était... je vais essayer... Ce sont plusieurs questions, remarques. Je vais essayer de rassembler autour d'une seule question. Je pense, j'ai beaucoup apprécié l'exposé de chacun, et en particulier celui de Françoise Collin, mais là je ne peux pas m'empêcher de réagir quand vous dites que Anna Arendt est raciste, parce que là franchement on peut dire si vous lisez bien le texte, c'est vrai que c'est pas un texte, il faut le relire, parce que moi-même j'étais un peu choquée à la première lecture. Le texte sur le Little Rock, en fait elle dit bien bien ce qui ne va pas dans la manière dont les choses sont passées à l'école, d'ailleurs, c'est le fait que finalement on a pris des enfants noirs en otage. Donc ça c'est le point pour moi central de tout, auquel il faut revenir pour vraiment comprendre ce qu'elle dit autour. Et en effet, on peut, là je vous rejoindrai par ailleurs, on peut en effet considérer que c'est un peu problématique de dire qu'il n'y a pas de problème à considérer que les gens devraient pouvoir se réunir entre Israéliens, entre Juifs et entre Noirs. Il se fait que ce n'est pas interdit par la loi et que ce serait difficile d'interdire ce genre de choses par la loi. Donc je pense que c'est là le point important de son raisonnement, c'est de dire on ne peut pas, la loi ne peut pas intervenir sur ce plan-là. Par rapport à cette question de la loi, elle dit d'ailleurs ce que vous venez, Philippe Reynaud vient de rappeler, que la vraie question pour la discrimination, c'est la question de la légalisation de la discrimination. Donc maintenant, pour la autre question qui me paraît importante, les banlieues, etc., je pense que Françoise Collin a dit l'essentiel, même si après elle s'est demandé elle-même si elle l'avait dit. On ne peut pas faire de la violence un principe, en fait, c'est ça l'essentiel. Mais il y a des moments où la violence est inévitable. Donc là, je vous rejoins vraiment totalement. Quant à la violence révolutionnaire, elle ne la réfute pas comme violence inévitable de départ. Ce qu'elle réfute, c'est l'idéologie révolutionnaire qui fait de la violence l'action essentielle. Donc, comme vous dites très bien aussi, Hannah Arendt, elle est toujours, elle ne pense pas, pense pas en système, elle pense relativement à une situation particulière ou un problème particulier. Alors je voulais revenir aussi à la question de l'institution. À partir d'ailleurs, j'étais très contente que vous parliez de la désobéissance civile, parce que c'est quand même un point central dans la pensée de Hannah Arendt, qui permet aussi d'éviter de la classer soit d'un côté, soit de l'autre d'ailleurs. Elle dit il faudrait constitutionnaliser la désobéissance civile, non pas comme droit, parce que là ça pose des tas de problèmes sur le plan juridique. On peut pas commencer à introduire, comme disait déjà Kant, un droit qui contredit le droit, etc. Par contre, la reconnaître dans une constitution comme institution politique, et même comme institution politique centrale. Donc je dis ça pour revenir à la question de l'institution. En fait, la question de l'institution se pose chez Hannah Arendt, mais de nouveau, comme toujours, elle ne la pose pas dans nos schémas, d'un côté les institutions et de l'autre le bon peuple ou la société civile, disons, pour dire les choses de manière justement schématique. Elle pose la question des institutions politiques qui doivent être reconnues constitutionnellement. Et elle dit des choses, c'est vrai que quantitativement, elle dit très peu de choses sur les institutions au sens de institutions séparées de la société, mais ce qu'elle dit, il y a deux institutions américaines dont elle dit le plus grand bien dans l'ouvrage sur la Révolution, c'est le Sénat et c'est la Cour suprême. Alors de nouveau, il ne s'agit pas pour Hannah Arendt de dire que tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils font est juste. Elle critique la Cour suprême dans certaines de ses décisions. Mais comme institution du jugement et de l'opinion, ce sont des institutions fondamentales où viennent se décanter les opinions qui, par ailleurs, se forment dans la société, en effet. Donc, elle n'oppose pas l'un à l'autre. Pour elle, c'est tout de même dans la société que prennent leur source les opinions politiques, mais elles ont besoin, il y a encore un appel à certaines institutions pour se développer. Et alors, dernière chose, parce que je voudrais tout de même pas qu'il y ait de malentendus, ou bien c'est moi qui je ne suis pas sûre d'avoir compris ce que vous avez dit à propos des droits de l'homme. Hannah Arendt ne critique évidemment pas l'idée des droits de l'homme. Le droit à la vie, le droit à l'association sont tout aussi fondamentaux pour elle que pour nous. Ce qu'elle critique, c'est l'idée que le fait de les déclarer soit suffisant pour les garantir sans qu'ils ne soient garantis par une communauté politique, par l'inscription de chaque individu dans une communauté politique, quelle qu'elle soit d'ailleurs.
Philippe, une réponse.
Les problèmes posés par les droits de l'homme sont multiples et le célèbre plaidoyer de Burke contre eux n'est ni périmé ni réactionnaire. À la différence des amendements de 91 à la Constitution des États-Unis d'Amérique qui servirent de modèle à la Déclaration des droits de l'homme, cette dernière était censée définir des droits positifs et premiers, inhérents à la nature humaine et distincts du statut politique de l'homme. Elle essayait en fait de ramener la politique à la nature. Eh bien, pour Hannah Arendt, ramener la politique à la nature, ce n'est pas une bonne idée.
Ah non,
donc,
mais là,
Hannah Arendt est
on est d'accord.
C'est pas une fondamentalement une critique de la doctrine des droits de l'homme.
De la doctrine naturaliste des droits de l'homme.
Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a aucun texte d'Hannah Arendt qui donne. Quelques pages plus haut, c'est la même chose, puisque la supériorité de la Révolution américaine, c'est d'avoir étendu les libertés des Anglais à l'ensemble des gens et d'avoir constitué d'abord un corps politique et d'avoir déclaré les droits après. Qui d'ailleurs, et elle le sait parfaitement parce qu'elle connaît quand même un peu l'histoire américaine, ce qui est déclaré dans les amendements à la Constitution, ce ne sont d'ailleurs pas les droits de l'homme, ce sont les droits des citoyens américains, elle le sait parfaitement.
Oui,
donc, elle n'a jamais défendu, ça on ne peut pas l'accuser de ça, elle n'a jamais défendu aucune doctrine du droit de l'homme.
Mais moi, je ne l'en accuse pas, je trouve ça très bien. Elle dit que ce sont des lois des droits des citoyens. Et s'ils ne sont pas droits des citoyens, ils ne peuvent pas être garantis. C'est pas la même chose que de dire qu'elle critique les droits de l'homme. Enfin, bon.
Mais elle dit pas, bien entendu, qu'on ne doit pas reconnaître des droits à tous les hommes. Ce qu'elle dit simplement, c'est que le véritable problème, c'est le droit à avoir des droits dont elle dit lui-même dans le texte que j'ai cité tout à l'heure, n'inclut en fait aucun des droits de l'homme. Il inclut le fait d'avoir un statut juridique qui vous permet d'être qu'on puisse vous imputer vos actions de manière qui ne soit pas n'importe laquelle, etc. Mais ça n'est pas la logique des droits de l'homme, c'est-à-dire la logique dans laquelle il y a l'égalité devant la loi et la reconnaissance universelle du droit à la vie, la liberté et la recherche du bonheur.
Ça, c'est la condition des droits de l'homme.
Mais elle dit quand même le droit d'avoir des droits. Voilà, ce serait le seul droit de l'homme.
Le droit d'avoir des droits. Elle le décrit très exactement en disant que le droit d'avoir des droits n'inclut pas le droit d'avoir ce que tout le monde appelle les droits de l'homme. C'est pas la même chose.
Le seul droit de l'homme, c'est le droit d'avoir des
droits. Oui, c'est ça, oui. Voilà. qui n'inclut ni la vie. Non, mais qui n'inclut, comme elle le dit, ni la vie, ni la liberté, ni la recherche du bonheur, ni l'égalité devant la loi. Or, moi, je suis pour les droits de l'homme, si vous voulez. Mais les droits de l'homme, c'est ça. C'est la vie, la liberté, la recherche du bonheur et l'égalité devant la loi. C'est, si vous voulez, c'est quelqu'un de très, très bien. Hannah Arendt, moi, je trouve qu'elle nous permet de penser justement contre nos évidences spontanées. Alors, c'est pas la peine de dire que parce que c'est quelqu'un de bien, elle pense comme nous et elle est pour les droits de l'homme. C'est quelqu'un de très bien, très intelligent, mais elle pense pas comme nous. C'est tout.
Alors, je crois que Wolfgang Heuer veut ajouter quelque chose.
Je voudrais bien ajouter un aspect sur la question des institutions vivantes. Non, la citation, une des peu citations qui existent, Hannah Arendt disait que les institutions politiques sont des manifestations et matérialisations du pouvoir. Celles-ci se pétrifient et déclinent dès que le pouvoir vivant cesse de les soutenir. Ça veut dire le pouvoir, les institutions, je suis d'accord, mais Arendt n'a pas plus discuté sur comment est le procès de la discussion vivante dans les institutions et quel rôle peuvent-ils jouer. Mais le pouvoir pour les institutions vient avec une confiance que les institutions fonctionnent. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans les institutions, il est nécessaire qu'il y ait des personnages qui actuent. Et pour moi, c'est toujours très convaincant et très, très impressionnant qu'il y a quelquefois dans les institutions des personnages exemplaires. Par exemple, le maire de Palermo qui a lutté sans société civile contre la mafia. Il a mobilisé la population avec les moyens qu'il a eus comme président de gouvernement. D'autres personnes sont les whistleblowers, sont les personnages qui travaillent dans les entreprises ou dans l'administration publique qui rencontrent la corruption ou une production qui est hors des lois ou qui est contre les consommateurs ou mauvais pour eux. Ils commencent à discuter sur la corruption et il n'y avait pas la possibilité avec les lois, d'être soutenue. Et maintenant, on crée les lois en faveur d'eux. Ça veut dire... Et aujourd'hui, on a parlé des héros. Hannah Arendt ne parle pas des héros, mais seulement, quelquefois, des exemples.
Alors,
il n'y a pas des exemples positifs pour la politique qui nous peuvent...
Donc, vous voyez, nous aurions encore beaucoup à débattre. Juste avant de nous séparer, peut-être je voudrais, d'une part, vous rappeler que le colloque se poursuit demain à partir de 14h autour d'un thème qui sera politique et expérience de pensée. Remercier Annie Meyer, donc, qui l'a organisé et pensé pour vous, et remercier, bien sûr, tous les intervenants de cette table ronde. Merci, au revoir. Merci à vous.